8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Qui n'a jamais acheté un vêtement d'occasion pas cher dans une friperie ou sur une plateforme en ligne? Avec la crise de l'inflation, le marché de la fripe explose partout dans le monde. Il rapporterait 34 milliards d'euros au secteur de la mode. Alors que l'industrie textile est une des plus polluantes et représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, le marché de la fripe est-il si écolo qu'on le dit? Quand on voit les montagnes de déchets textiles dans certains pays du Sud, à qui profite le business de la fripe? On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Emmanuel Durand.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue rattachée à l'EHESS, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, autrice du livre « L'envers des fripes, les vêtements dans les plis, la mondialisation » aux éditions Premier Parallèle. Vous nous raconterez cette enquête. D'ailleurs, vous avez dû user de votre empreinte carbone quand même.
Tout à fait.
C'est ça. Des échoppes de Beyrouth jusqu'aux entreprises. Pot de tri européen, vous nous direz en quoi ce sont de vraies filières. Nous sommes également en ligne avec Valérie Fayard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale déléguée de l'association Emmaüs France qui, on le sait bien, collecte, trie et distribue tout type d'objets, notamment des vêtements pour les personnes précaires ou en situation d'exclusion. Et vous nous direz en quoi le marché de la fripe a forcément impacté les dons vestimentaires d'Emmaüs. D'ici là et d'ici une vingtaine de minutes, on écoutera un extrait du reportage de Mehdi Medeb à Accra. La capitale du Ghana est devenue la poubelle de la fast fashion mondiale. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous si vous achetez souvent des vêtements de seconde main, où est-ce que vous les trouvez, en quoi pour vous la fripe c'est économique ou écologique? On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
Écoute par exemple aujourd'hui, ce que j'ai dit là, c'est important que...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Moi, je suis trop fan des fripes. D'ailleurs, c'est les seuls habits que j'achète. D'abord, c'est économique. Si je suis fan des friperies, c'est parce que je fais quand même la différence. Je porte une chemise et je suis le seul à porter cette chemise. Je porte un pantalon et je suis le seul. C'est pourquoi je suis fan de fripes. Je n'aime pas, disons, les habits achetés à la boutique parce que c'est pour tout le monde, c'est un peu ça. Moi, je suis fan aux fripes.
Voilà, bien compris, un fan de fripes. Emmanuel de Goma en RDC, merci pour votre message. Pour des raisons économiques, mais pas seulement, pour des sapes uniques, pas standard pour lui. C'est ce qui fait aussi le succès du marché de la fripe, et on va en reparler. Mais je voulais commencer avec vous et cette proposition de loi qui a été adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale en France pour interdire de publicité et pénaliser les plateformes de la fast fashion, la fameuse mode jetable comme les Chinois, Chine et Temu. Je sais que du côté d'Emmaüs France, Valérie Fayard, vous étiez farouchement pour cette proposition de loi.
Oui, absolument. Ça fait longtemps qu'on réclame une régulation concernant les mises sur le marché avec l'évolution vers de la fast fashion et maintenant de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des t-shirts à 2 euros ou à 5 euros qui sont fabriqués dans des conditions environnementales et sociales dramatiques, qui sont produits dans des conditions astronomiques, qui alimentent un modèle de la surproduction et de la surconsommation. On est vraiment dans l'extrême de ce que le modèle capitaliste libéral peut produire de pire. Donc nous, on réclamait de nos voeux cette loi sur la fast fashion. Donc là, elle a été votée en première lecture. On est très contents. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Et on espère aussi que cette loi sera suffisamment précise et claire pour ne pas cibler que l'ultra fast fashion, c'est-à-dire Chine ou Timon, comme vous l'avez dit, mais aussi la fast fashion qu'on subit depuis des années, c'est-à-dire Zara, H&M, Kiabi, Decathlon, etc., qui ont aussi des impacts environnementaux et sociaux dramatiques et que nous, on constate en bout de chaîne.
Ouais. Alors en même temps, je reprends l'argument des enseignes de la mode ultra rapide qui disent, nous, on défend, on préserve le pouvoir d'achat de nos clients face à la crise de l'inflation et notamment des jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de leur argument, Emmanuel Durand?
Alors, c'est vrai que c'est, sur ce projet de loi, du point de vue des sciences sociales, c'est un peu délicat, en fait, de commenter quelque chose qui est encore très récent et puis qui n'existe pas encore tout à fait.
Oui.
Mais c'est vrai que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça vient, je dirais, déplacer le débat et même le replacer, finalement, au bon endroit, c'est-à-dire à l'étape de la production et de la mise sur le marché. Là où on a davantage tendance, et je trouve que l'argument que vous venez de citer va dans ce sens-là, on a plutôt tendance à regarder les choses depuis le point de vue du consommateur en mettant en fait la responsabilité et même parfois la culpabilité sur le consommateur, alors qu'il me semble très important de revenir à la racine, au nœud du problème, c'est-à-dire la production, la surproduction et l'excédent de marchandises vestimentaires qui est mis sur le marché. Après, effectivement, il va falloir être attentif et vigilant au décret d'application de cette loi, voilà, qu'elle soit
alors,
assez ambitieuse.
Alors, un malus de 10 euros par produit en 2030. Bon, quand on voit que le chiffre d'affaires, par exemple, du site chinois Chine, c'est 32 milliards du chiffre d'affaires hein, quand même. Donc, bon. Je vous fais rebondir aussi là-dessus, Valérie Fayard, quand certains disent, bah voilà, ces propositions de loi, elles privent les plus pauvres et les plus jeunes à un droit à la mode comme tout le monde.
Oui, alors c'est assez amusant d'ailleurs que ces enseignes mettent comme premier argument la défense des personnes à petit pouvoir d'achat, comme si leur objectif principal c'était de défendre les plus pauvres. C'est assez rigolo quand on voit que c'est quand même des entreprises énormes et qui ont comme objectif le profit et la rémunération de l'actionnaire, ce qui est logique. C'est vrai et faux, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas beaucoup de sous et qu'on est dans une société où pour avoir une place dans la société, il faut consommer, surconsommer, toujours consommer plus. Mmh. Si on n'a pas d'argent pour s'acheter des produits de bonne qualité, on va effectivement être obligé de se rabattre sur des marques peu chères et de mauvaise qualité. Donc ça, c'est le premier problème, c'est le problème du modèle dans lequel nous sommes, de cette espèce de marketing qui incite les gens, qui met les gens dans un stress permanent et où finalement, on est obligé de consommer, de consommer, de consommer. Donc ça, c'est un premier sujet. Chez Emmaüs, nous, on est porteurs d'une vision de la sobriété.
Oui.
Il faut arrêter avec ce modèle, premièrement. Deuxièmement, pour être plus concret, quand vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous vous achetez un t-shirt à 5 euros, mais qui au bout de 3 mois aura plus l'air de rien, il vaut peut-être mieux s'acheter une fois seulement dans l'année un t-shirt à 20 euros et avoir quelque chose qui va durer, ou s'acheter du réemploi de bonne qualité et qui en plus, comme le disait votre témoignage en début d'émission, a une caractéristique d'être beaucoup moins quelque chose en série et beaucoup plus unique. Donc, pour les personnes qui sont en difficulté, bien évidemment, il ne faut pas les culpabiliser. Et c'est effectivement sur les marques qu'il faut remettre la responsabilité, pas sur le consommateur. Mais cependant, nous, on pense que pour les gens qui sont en difficulté, ce n'est pas une bonne affaire que d'acheter des produits qui ont une durée de vie extrêmement limitée.
Ouais, le leurre de la bonne affaire, soi-disant, qui n'est pas forcément une bonne affaire. D'ailleurs, vous-même aussi, Emmanuel Durand, vous parlez d'un marketing qui se joue sur la bonne conscience écologique. On va en parler ensuite tout à l'heure, mais qui crée des addictions aussi avec les systèmes de pub, et notamment sur les plus jeunes. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la fast fashion, l'ultra fast fashion fonctionne sur ces modèles qui viennent d'être expliqués. Et en ça, je trouve que d'interdire la publicité est une piste, une solution qui peut être très, très intéressante pour essayer de d'endiguer un peu ces phénomènes de surconsommation qui sont alimentés par ces mécanismes-là. Mais encore une fois, je crois que le débat doit vraiment être centré sur la surproduction et la responsabilité des entreprises surproductrices.
Et pas sur le consommateur. Et tout à l'heure, vous nous direz en quoi le marché de la seconde main marche de pair avec la fast fashion. On se retrouve après Andrea avec Allegria sur RFI. Traga-me alegria.
my side, I don't need anything. First of all, my whole life, I got this feeling. Me like when we talk together, love together, move together. When we spend time, spend night together. Give us a yes, we need to travel together. So what I need to tell you to make you my woman.
So to be, el te da tout pa mi. So to be, el est tout pa mi. Oui papa, oui maman, so chame so me traigne vite. Por favor, so dig me si cap, so traigne mi.
C'est un titre à retrouver dans la playlist de RFI. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines. On parle de la face cachée du marché de la fripe. Le marché de la friperie est-il si écolo qu'on le dit avec nos invités? Emmanuel Durand, anthropologue et autrice du livre L'envers des fripes, les vêtements dans les plis de la mondialisation. J'aime beaucoup le sous-titre. Aux éditions Premier Parallèle, et Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs. On attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Tout à l'heure, on parlait de la fast fashion avant de parler ensuite des filières de la fripe. Vous, Valérie Fayard, du côté d'Emmaüs, vous vous dites à la fois témoin et victime de cette mode jetable. Qu'est-ce que ça veut dire, à la fois témoin et victime?
Alors nous, on est en bout de chaîne et donc on récupère les produits une fois qu'ils ont été utilisés. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour Emmaüs, comme tous les acteurs du réemploi solidaire, cette activité de collecte, de tri et de revente de vêtements, c'est une activité au service d'un projet social. C'est-à-dire que ça nous permet de donner du travail à des milliers de personnes, 7000 compagnes et compagnons dans les communautés Emmaüs, des milliers de salariés qui vont pouvoir retrouver une activité grâce à cela. Donc nous, l'objectif, il est vraiment social, et c'est très important. Quand on collecte du textile, ce qui nous permet justement de financer notre projet social, c'est la partie qui est réemployable, qu'on va pouvoir revendre.
Oui.
Le reste, on le traite. Donc nous, on est des acteurs écolos. On le traite, on le met en filière de recyclage et on n'a que 5% de déchets à la sortie. Mais la partie recyclage, elle ne nous rapporte rien. Donc nous, si la partie réemploi baisse, eh bien les ressources qu'on va avoir pour financer les postes d'activité vont diminuer. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une tendance que l'on constate. Il y a 10 ans, quand on collectait 100 tonnes, on pouvait en réemployer en seconde main 65. Aujourd'hui, c'est 55. Donc ça perturbe notre équilibre et ça peut à terme, si ça continue, menacer notre projet social. C'est pour ça qu'on dit qu'on est victime de ce système, puisqu'on constate que la baisse de qualité de ce qui est mis sur le marché et aussi la concurrence de plateformes de vente en ligne font que ce qu'on donne aux acteurs du réemploi solidaire est de moins bonne qualité. En quelque sorte, les gens se débarrassent de ce qu'ils ne peuvent pas vendre ailleurs ou de ce qui est vraiment plus réutilisable.
Sauf
et
que Emmaüs n'est pas la poubelle.
C'est la poubelle,
des particuliers. Quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, c'est très important, quand on parle de la fripe et de ce qu'il y a derrière le marché de la fripe, il y a des acteurs privés qui font beaucoup d'argent et qui ont uniquement une visée lucrative. Nous, Emmaüs, on n'est pas les seuls. On collecte quand même 170 000 tonnes de textiles par an. Depuis 70 ans, on a cette activité. Elle est au service d'un projet social et c'est important de maintenir des acteurs comme Emmaüs et de maintenir cette activité de réemploi au service d'un projet social.
Vous le disiez, vous êtes en bout de chaîne. Alors justement, c'est intéressant parce que vous, Emmanuel Durand, vous êtes remonté à la chaîne dans votre enquête. Vous êtes parti au Liban pour remonter ces filières de la fripe. Pourquoi vous avez choisi Beyrouth en fait ?
Alors, la question, elle s'est posée un peu dans le sens inverse, je dirais. Pourquoi la fripe ? En fait, moi, je vis au Liban par intermittence depuis une douzaine d'années. J'avais travaillé avant sur les pratiques commerciales de vendeurs de rue à Beyrouth. Et puis, au moment de commencer cette nouvelle recherche, en fait, elle est apparue dans un constat qui était assez paradoxal. D'un côté, il y avait de plus en plus, donc en 2018, de plus en plus à Beyrouth d'échoppes, de marchés, de vêtements de seconde main. Et en même temps, il y avait des représentations sociales qui étaient extrêmement négatives par rapport à cet objet-là.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est quelque chose qui était lié à la pauvreté, à la saleté, à la marginalité. Et en fait, j'ai voulu me plonger, prendre au sérieux en fait, cette matérialité-là et voir ce qu'il y avait derrière en termes de pratique de travail, c'est vraiment mon approche, mais aussi de représentation sociale et de ce que ça nourrit. Et puis, il y avait un double intérêt, en fait, à choisir Beyrouth et le Liban pour l'étude de ce commerce de la fripe. D'une part, c'était aussi un peu pour décentrer la vision. On parle beaucoup du marché de la fripe en regardant beaucoup vers l'Afrique, qui est un gros marché, mais on voit qu'il y a plein d'autres acteurs à l'échelle globale. Donc, il y avait ça. Et le Moyen-Orient est un vrai angle mort, en fait, des études sur la fripe. Et l'autre dimension qui me semblait intéressante, c'était aussi de raconter, en fait, d'autres histoires sur ce Moyen-Orient, qui est beaucoup appréhendé en termes de conflits, de tensions et de troubles qu'il traverse, et de le replacer aussi dans une histoire plus globale de la production textile, où, voilà, pour l'anecdote, au moment de la révolution industrielle au 19e, les filatures lyonnaises délocalisent au Mont Liban, à ce moment-là, la Syrie et le Liban, parce qu'on a une main d'œuvre beaucoup moins chère.
Oui, donc tout ça sous l'angle de la fripe. Hein,
c'est ça.
Et tout en remontant les filières, en disant, le mythe de la fripe écolo, non. D'abord, c'est comme vous le dites, il y a plusieurs filières. Et comme le disait aussi du côté d'Emmaüs, beaucoup aussi d'intermédiaires dans les collectes. Même si on va dire que quoi, la fripe, c'est quand même moins polluant que la fast fashion. Enfin, je ne sais pas si on peut avoir des chiffres là-dessus ou pas.
Oui, alors l'idée, en fait, dans le fait de consacrer une recherche en anthropologie donc qui m'a occupée 5 ans, c'était en fait de sortir un peu d'un sujet faussement simple. On voit les choses souvent de façon binaire, c'est linéaire, c'est circulaire, c'est vertueux ou c'est vicieux. Moi je voulais vraiment sortir de cette vision dichotomique pour aller voir entre les lignes ce qui s'y passe. Et on voit effectivement que derrière ce qu'on appelle la fripe, Valérie Fayard le disait très bien, il y a une multitude d'acteurs. On a effectivement des acteurs associatifs, des acteurs privés qui lancent des boutiques indépendantes ou éphémères. On a, avec l'arrivée des plateformes numériques, on a aussi les enseignes de fast fashion qui ouvrent leurs rayons à la seconde main. Et en fait, il y a une diversification comme ça de l'offre de seconde main, de ce qu'on appelle la seconde main. C'était vraiment montrer la complexité de ce marché. Et la diversité des modèles économiques, sociaux et écologiques qui existent. Et de surtout sortir de cette vision binaire, est-ce que c'est vertueux, est-ce que c'est vicieux, mais de montrer comment ça s'en mêle.
Ouais, ça s'entremêle par les fils, hein, s'il fallait qu'on reprenne compte. Avant de prendre un appel d'auditeur, ça vous cause, Valérie Fayard, ce que vient nous dire Emmanuel Durand, ça s'est complexifié. Vous, je crois savoir que ça fait plus de 20 ans que vous travaillez à Emmaüs. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je partage complètement ce constat et c'est pour ça que c'est très important aussi, et des émissions comme la vôtre peuvent y contribuer, d'éclairer les citoyens, les consommateurs, les donateurs sur ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, si j'achète une fripe à tel endroit ou si je donne un vêtement à tel endroit, c'est pas forcément la même chose. Donc, nous, on essaye d'offrir le maximum de transparence et de demander de la transparence parce qu'il y a des acteurs qui, effectivement, volontairement, un peu embrouillent les messages pour qu'on sache pas trop où ça va et à qui profite l'activité. Donc, effectivement, pouvoir dire, si vous achetez chez Emmaüs, voilà à quoi ça sert. Si vous vendez données sur, par exemple, Vinted, vous n'êtes pas dans une économie circulaire, ce n'est pas vrai. Vous êtes dans une économie de la surconsommation et vous participez exactement au même modèle que celui qui va à sa perte. Donner des éléments d'éclairage aux gens pour que, précisément, encore une fois, quand ils vont acheter une fringue ou qui vont donner une fringue, ils sachent exactement à quoi ça correspond. Mais en même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et nous, notre préoccupation, c'est aussi de ne pas jeter un voile noir sur l'ensemble de la fripe en disant bah, la fripe, par définition, finalement, c'est exactement la même chose que la fast fashion. Votre introduction a été un peu comme ça. Non, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'en effet, quand on achète un produit de seconde main, eh ben, si on achète un jean de seconde main, on a économisé 7000 litres d'eau. Oui. Ça, c'est une réalité. Donc, les impacts environnementaux, ils sont réels. Si vous achetez chez Emmaüs, vous contribuez à donner du travail à des milliers de personnes. Donc, il y a des impacts qui sont positifs. Mais encore une fois, il faut bien décrypter. Par exemple, on a un nouveau phénomène, vous l'avez un tout petit peu évoqué, c'est la collecte par des enseignes de produits de seconde main. Donnez-nous vos vieux vêtements. Et en échange, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne un bon d'achat. Ça, c'est complètement dingue. Nous, on voudrait que ce soit interdit. C'est l'inverse de l'économie circulaire, puisque en fait, c'est se servir de la seconde main pour inciter les gens à surconsommer du neuf. On est dans un truc de dingue. Donc, effectivement, il y a les plateformes, il y a toute la collecte qui est faite par les entreprises aujourd'hui pour pousser à la surconsommation, il y a les friperies privées, il y a les friperies solidaires, et tout ça, ce sont des univers, même si c'est tout la fripe, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et c'est un peu compliqué à expliquer, c'est vrai.
C'est vrai. Et bah, c'est ce qu'on tente de faire là, en tout cas, dans Lumière de voisins et de voisines. On a un appel, justement, 33 7 64 45 51 41, et on va du côté du Sénégal.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning. Bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Muchas violo.
Buenos dias.
À quoi va les voisins et les voisines?
Et c'est Fatima qui nous appelle de Rufisque au Sénégal. Bonjour Fatima.
Bonjour Zara.
Merci d'être avec nous. Alors vous allez une fois de temps en temps acheter des fripes à un marché qui est un peu plus loin, hein, c'est ça, du côté de Dakar?
Oui, c'est à Koloban. Je vais là-bas souvent deux fois par an ou une fois, comme ça.
D'accord. Et vous allez chercher quoi en fait?
Des jeans, des chemises, des vêtements tout court. Quand je veux acheter quelque chose, je vais là-bas. C'est super abordable et puis on a beaucoup de choix pour acheter tout ce qu'on veut et c'est pas trop cher comme les autres vêtements comme ça, on voit.
Oui, parce que vous êtes jeune, hein. Vous avez quoi? Vous avez 22 ans, Fatima?
Oui, j'ai 22 ans. Oui.
Donc c'est aussi pour, et avant tout pour des raisons économiques ou de mode aussi?
Pour des raisons économiques, première, mais de mode aussi. Parce que quand j'achète ces vêtements, quand je sors dans la rue, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va porter la mesure. Ouais. Comme l'auditeur le disait au début de l'émission, voilà. Ouais. Et c'est super bien. Parfois, on part au marché, on voit des plein de vêtements comme ça, avec des couleurs super vives. Comme si quelqu'un venait de sortir sa collection et le distribuait partout dans le quartier. J'aime pas ça. Et je veux acheter des trucs rare et je prends pour mon temps pour ne pas acheter des choses que je vais jeter deux mois après.
Oui, mais justement, c'est des vêtements de bonne qualité ou pas?
Oui, c'est de bonne qualité si tu prends tout ton temps, mais tu ne peux pas aller acheter n'importe quoi et les jeter deux mois après. Donc moi, je préfère prendre tout mon temps et acheter des choses super qualité pour, voilà.
Ouais.
Pendant un an.
Et vous savez d'où viennent ces vêtements ou pas?
Ah non, franchement, je ne sais pas. On me dit que ça vient de l'Europe, de Chine, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et parfois, on dit que pour acheter des vêtements pour l'écologie et tout ça, moi, je ne me lève pas pour aller acheter des vêtements pour le changement climatique. Mais quand même, si ça peut impacter un peu sur le changement climatique, tant mieux. Mais moi, voilà, j'ai fait une formation couturière et je dois acheter une machine. Quand j'achèterai ces vêtements, je les modifie à ma sauce. Donc, c'est super bien d'acheter des vêtements de seconde main pour ne pas trop gaspiller.
C'est ça.
C'est bien.
Merci beaucoup, Fatima, pour votre témoignage du côté de Rufisque.
Merci à
vous.
Au revoir,
Valérie. Fayard, vous vouliez peut-être réagir. Et en même temps, là, elle raccommode aussi ses vêtements. Ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La fripe, le vêtement d'occasion, de seconde main, ça rebouleverse aussi peut-être notre rapport au neuf, Valérie Fayard.
Oui. Absolument. Il faut quand même promouvoir l'achat de produits seconde main versus le neuf, et particulièrement dans la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante.
Oui.
Encore une fois, je rappelle les chiffres sur la consommation de ressources qu'implique la fabrication de produits neufs. Si on peut réutiliser les produits plutôt que d'acheter du neuf, sur le plan environnemental, c'est bon. Effectivement. Et puis, j'aime bien ce qu'a dit votre auditrice sur le côté, finalement, plaisir aussi. Parce qu'il y a une image un peu que cherche à donner des trucs comme Chine et tout, de dire, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils peuvent acheter du neuf, ils vont se faire plaisir. Ça veut dire, à contrario, la seconde main, c'est vraiment le pain somme et c'est la punition. Non. Et on voit bien que s'acheter des fringues de seconde main, ça peut être un plaisir parce qu'on trouve des choses qui sont complètement uniques par rapport à la standardisation des produits qui sont vendus par les enseignes de fast fashion. Donc, il y a du plaisir, il peut y avoir tout à fait du plaisir. Et par exemple, nous, chez Emmaüs, on fait des tas d'efforts pour que nos lieux de vente soient des lieux sympas, où les gens se sentent bien, où ils ont envie de passer du temps et où, effectivement, il y ait largement autant de plaisir que d'aller dans une enseigne de fast fashion. Donc, un impact environnemental et aussi la dimension se faire plaisir
comme
et être un peu dans un truc unique et pas être dans un truc complètement standardisé. Donc, je partage complètement ce qui a été dit.
Emmanuel Durand, vous voulez réagir
hein. Oui, je trouve très intéressant ce témoignage de cette auditrice parce que, en fait, on se rend compte que dans cette chaîne de revalorisation, donc d'un vêtement qui a été jeté ou donné à un moment avant qu'il redevienne une marchandise qui est convoitée, qui est désirable, en fait, il faut tout un tas d'acteurs qui vont le trier, le conditionner, le laver, le réparer, etc. Et moi, le parti que j'ai pris en fait dans l'enquête, c'est de considérer aussi le consommateur, l'acheteur, comme un acteur qui participe à cette revalorisation. Et son témoignage est très fort là-dessus, parce qu'en fait, acheter de la fripe demande du temps pour trouver la bonne pièce, la bonne taille, la bonne couleur.
Faire le tri, trouver, c'est sûr.
Il y a le temps, les gestes, mais il y a aussi toutes les histoires qu'on se raconte à travers ces vêtements. Et on voit, et ça je trouve que c'est très intéressant, en tout cas c'est fortement le cas au Liban, le fait que ça vienne d'Europe, il y a une dimension un peu paradoxale par rapport à ça, une ambivalence, parce qu'on voit que pour certains, c'est quelque chose qui est valorisant, le fait que ce soit des vêtements d'Europe, c'est vu comme quelque chose de bien. Et inversement, il y a un mouvement assez récent de considérer justement que le fait que les vêtements viennent d'Europe, il y a des subjectivités en fait politiques qui se soulèvent et qui émergent contre ça et qui disent non, on ne veut plus de ces vêtements-là qui ont été jetés par les Européens qu'on nous envoie.
Justement, je crois qu'on a un témoignage en ce sens, c'est Leslie qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Leslie.
Oui, bonjour Laurence, merci.
Merci d'être avec nous. Alors justement, Leslie, vous nous écoutez certainement. Vous achetez des fripes au marché de Moloko, qui est un des plus grands marchés d'Afrique centrale. Et les fripes, là-bas chez vous, les vêtements, ils viennent surtout d'Europe, c'est ça?
Oui, exactement. Comme je disais tantôt au préalable, moi je me ravitaille à Mokolo. C'est un marché très célèbre, ici à Yaoundé.
Oui.
Tous les Yaoundéens d'ailleurs le connaissent. Il n'est pas très loin du centre-ville. Il est très étendu sur plusieurs hectares. C'est le plus grand marché d'Afrique centrale. Donc,
Et alors, c'est plutôt des fringues qui viennent d'Europe. Et pour préparer cette émission, vous avez confié à Delphine que du coup, vous regrettez un petit peu que ça change le look des femmes et des jeunes, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, j'ai fait une petite remarque en comparant les garde-robes. La garde-robe de ma grand-mère, celle de ma mère et la mienne. Bon, la grand-mère, c'est 100% tissu africain, 100% accoucrement local. La maman, c'est 70% traditionnel et 30% occidental. Et chez moi, c'est la catastrophe. Je pense que 90% occidental et 10%. Et encore, le tissu traditionnel, quand je le porte, j'ai constaté que c'est la maman qui met la pression. Parce qu'ici, lors des événements traditionnels et de famille, il faut porter le tissu traditionnel, il faut porter le modèle souvent qu'on laisse. Donc la maman aimait aussi que je sois dans le moule, dans le groupe.
Dans l'uniformisation.
C'est aussi ça qu'une bonne maman, c'est celle qui a transmis la valeur de l'importance du tissu traditionnel à son enfant.
Et sauf que
c'est d'elle essentiellement que la pression.
Sauf que les tissus locaux sont trop chers, et enfin, en tout cas plus chers qu'effectivement toutes ces vêtements européens qui arrivent sur le marché. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce que je fais rebondir Emmanuel Durand. C'est ce que vous disiez aussi. Il y a une uniformisation, ce qui vient d'Europe. À la fois, c'est bien, mais en même temps, On se ressemble tous, hein, les fameux plis de la mondialisation aussi. Hein. Oui, et on en perd alors, notre valeur culturelle aussi.
Il y a ça, mais je crois que c'est important aussi de mettre la lumière sur des formes de réappropriation et justement comment voilà, même des vêtements qui viennent d'Europe et qui peuvent plus ou moins tous se ressembler sont à l'échelle locale, donc dans différents pays et contextes sociaux et politiques, réappropriés et transformés pour finalement aussi redonner une forme, une couleur culturelle, en fait. Et on le voit, là, le témoignage me fait pas mal penser à la question de la SAP, du mouvement de la SAP au Congo, qui est en fait, alors, du coup, dans un mouvement plutôt inverse, qui est apparu par la classe servile, par les esclaves, en fait, qui finalement voulaient s'habiller comme, comme les colons, comme les hommes blancs. Et on voit, en fait, c'est très intéressant autour de la question du vêtement, de la mode, qui souvent est un peu délaissée en termes d'études parce que c'est considéré comme superficiel. Mais on voit qu'il y a des vrais enjeux politiques, évidemment économiques qui se jouent et environnementaux aujourd'hui, mais en tout cas des vrais enjeux politiques d'appropriation, de discours politique et également de comment on se place dans ce monde-là.
En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, hein, Leslie, du côté de Yaoundé. Valérie Fayard, vous vouliez peut-être réagir à ce témoignage parce que Emmaüs aussi, voilà, il y a des tonnes de vêtements qui brassent, qui racontent des histoires culturelles aussi.
Oui, absolument. Et c'est hyper intéressant ce témoignage et également le complément qui vient d'être apporté, c'est-à-dire comment est-ce que l'Afrique peut être réappropriée effectivement chacun se le réapproprie, le transforme. Et c'est vachement plus intéressant qu'un vêtement neuf qui a été produit en Chine. Après, la question de l'industrie du textile en Afrique, de la concurrence de l'Afrique, etc., c'est quand même un vrai sujet.
Ouais.
Il est clair que on peut quand même se dire qu'il y aurait une vision qui serait qu'on produit moins partout dans le monde, et notamment de la fast fashion, donc il y a moins de produits aussi qui arrivent, de meilleure qualité, en Afrique comme en Europe. Et parallèlement, il peut y avoir une résurgence d'une industrie du textile et de la confection en Afrique, pour que les deux puissent cohabiter. Ce serait ça, un monde idéal. Hein. Ouais. Nous, on n'est pas du tout qu'il faut que tout le monde soit habillé en fripe. Voilà, donc il y a des changements à opérer. Après, il faut savoir que même en Afrique, par exemple, les vêtements traditionnels, quand vous allez en Afrique, vous voyez bien que le tissu, il est, dans les trois quarts des cas, fait en Hollande. Hein.
Ouais. Ouais, c'est
donc,
sûr.
Même les vêtements traditionnels, ils ne sont pas 100% africains. Donc, il y a des vrais sujets à travailler et ça met en cause, bien évidemment, les rapports Nord-Sud.
Forcément.
Avec tout ce qui devrait changer de ce côté-là.
Ouais, et du travail. Et nous avons un nouvel appel du côté du Bénin.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Et c'est Wenceslas qui nous appelle de Porto Novo. Bonjour Wenceslas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous, c'est intéressant, votre regard va nous intéresser parce que vous-même, vous êtes revendeur de fripes, hein, sur Internet. D'où viennent tous ces vêtements d'ailleurs de seconde main que vous revendez?
Oui, ça vient un peu partout, de l'Europe, la France, le Canada, l'Allemagne, l'Amérique.
Et vous les achetez?
C'est les conteneurs qui viennent. Et nous, on part sur le terrain, on prend pour nous, on fait les tri.
Vous faites
après,
le tri.
Après, on rebond.
D'accord, vous triez. J'ai vu, vous disiez, vous nous confiez que vous les lavez, vous les repassez, vous les parfumez, c'est ça?
Exactement. On prend ce qu'on peut prendre, les qualités, et on les lave. J'amène ça d'abord, j'amène à la boutique, je lave, je les repasse, je les parfume. Et j'expose maintenant sur le marché.
C'est ça, sur le
et
marché.
Et je prends des photos et je mets ça sur mon catalogue aussi, en ligne.
Sur Internet, sur WhatsApp et Facebook. Et qu'est-ce que vous faites des vêtements qui sont plus usés qu'est-ce que vous en faites hein?
Bon, les vêtements qui sont un peu usés et tout, j'amène ça vers mon tailleur. Et je lui dis ce qu'il doit faire. Et par exemple, je peux dessiner la botte que je veux. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il fasse du ce vêtement et lui, il reproduit cela sur sa machine.
Oui, d'accord. Et vous ne vous sentez pas du tout vous inondé par toutes ces importations, non?
Non, au contraire, ça me fait plaisir. C'est devenu une habitude.
Et vous vivez plutôt bien de ce métier, Wenceslas?
Oui, avant. Mais maintenant que Talon, notre président, ici au Bénin, a installé l'industrie du textile, vraiment, tout est devenu difficile.
Ouais, tout est plus compliqué, quoi. Mais en tout cas, merci. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de voir aussi l'autre facette revendeur de fripes, parce que Valérie Fayard, vous parlez aussi de l'importance de l'emploi, à Emmaüs, hein, notamment. Là aussi, c'est important pour l'emploi local, hein, quand on écoute Wenceslas.
Oui, exactement. Les impacts en termes social et d'emploi, ils sont à la fois en France ou en Europe et également, par exemple, en Afrique, puisque quand on exporte une balle de textile, par exemple du textile qui est déjà trié et classé pour ne pas exporter de déchets, ça va vers des négociants et des trieurs comme ce monsieur. Mmh. Et effectivement, ça génère de l'emploi localement. Et l'industrie de la fripe en Afrique, ce n'est pas uniquement du business et du chiffre d'affaires, c'est aussi beaucoup, beaucoup, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on pourrait les retrouver, énormément d'emplois. Nous, à Emmaüs, on a même des structures du relais qui se sont ouvertes au Sénégal et à Madagascar, où on a créé des centaines d'emplois en envoyant là-bas des fringues qui sont retriées en catégories beaucoup plus fines, correspondant vraiment aux besoins, qui repartent après sur les marchés, etc. Et tout ça génère une chaîne d'emplois extrêmement importante. Donc, il y a les emplois en France, et donc nous, chez Emmaüs, c'est fondamental, parce que c'est vraiment notre objectif, mais aussi les emplois qui peuvent être générés dans les pays d'exportation, et notamment en Afrique.
Une vraie filière d'emploi local aussi, vous avez pu l'observer durant votre périple, Emmanuel Durand.
Oui, tout à fait, on voit effectivement que ça vient créer de multiples emplois, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, je crois, assez fort quand même, qui est, on a vraiment la chaîne donc de la benne de collecte jusqu'au marché de revente en ligne ou dans la ville, c'est vraiment complexifié et il y a de plus en plus d'intermédiaires et aussi du coup de territoires à l'échelle nationale et internationale qui sont mobilisés pour, encore une fois, pour trier, pour conditionner, parfois effectivement laver ou réparer. Et il y a un effet, il me semble, qui est important à avoir en tête, c'est qu'en fait, on a eu depuis des siècles, en fait, des territoires qui étaient spécialisés dans le tri. Le tri, c'est vraiment l'étape clé de cette filière-là. Hein. C'est comme ça qu'on revalorise en partie. Et donc, à un moment, c'était vraiment l'Europe du Nord, notamment la Belgique et l'Allemagne, qui étaient vraiment spécialisées au moment, en fait, dans les années 80, en 1980. Il y a un géant en Allemagne qui arrive, un géant privé qui arrive sur cette filière-là et qui va trier et importer et exporter ces marchandises-là. Mmh. Ensuite, c'est la Tunisie qui, au milieu des années 90, s'est spécialisée dans les opérations de tri. Donc, on comprend là qu'on a une première marche, en fait, de forme de délocalisation parce qu'on a une main-d'œuvre de trieurs et de trieuses qui coûte moins cher.
Leur marché, oui.
Et moi, ce que j'ai pu observer, donc là, sur le temps de l'enquête entre 2018 et 2022, sur les filières des vêtements que moi j'ai suivies. Donc, encore une fois, les filières et les circuits sont multiples et ne se ressemblent pas. Mmh. Mais en tout cas, les vêtements que j'ai suivis, moi, en fait, passent désormais par Dubaï, qui est devenu un pôle de tri très important pour la marchandise de vêtements usagés. Et là encore, pour des raisons finalement d'économie, de coût de la main-d'œuvre, où le tri dans ces zones franches de Dubaï se fait par une main-d'œuvre qui vient du sud-est
Forcément.
Asiatique.
C'est la même logique, quoi.
Voilà,
en fait.
C'est ça. Et c'est en ça que je pense quand même important de regarder un peu ce qui se joue de ce côté-là.
En tout cas, merci beaucoup, Wenceslas, pour votre témoignage du côté de Porto Novo. Je vous propose d'aller à Accra, la capitale du Ghana. Le quartier commerçant de Kantamanto reçoit 40% de la fripe mondiale. Des habits en très mauvais état qui ne peuvent pas être recyclés, forcément. Résultat, des montagnes de déchets qui ont un impact sur la santé des gens et sur l'environnement. C'est un extrait d'un grand reportage signé Mehdi Medeb.
Quant à Babel d'Afrique, les commerçants de toute l'Afrique de l'Ouest viennent donc à Kantamanto pour acheter ces balles de 55 kilos de vêtements. Babel du 21e siècle, ou plutôt poubelle du monde de la mode. Car en moyenne, sur les 15 millions d'articles arrivant chaque semaine, 40% sont jetés à cause de la surproduction de cette mode jetable, à peine portable plus de 3 ou 4 fois. Accra est en bout de chaîne de cette industrie de la fripe à bas coût. Tout est donc pollué à Accra, l'air et les sols, les eaux et l'océan, ainsi que les plages. Tout y est saturé de plastique. Comme nous la racontent Joseph et Jacob de la Or Foundation, c'est l'une des rares ONG à alerter sur les ravages de la fast fashion.
La décharge est située au bord du lagon qui va se jeter non loin de là dans l'océan. Donc à cause de son emplacement, les eaux du lagon et de l'océan sont très facilement contaminées. Il y a des milliers et des milliers de tonnes de déchets. C'est vraiment gigantesque. Voilà pourquoi on retrouve tant de microfibres et de particules de plastique, surtout dans la zone où le lagon se jette dans l'océan. Même quand on en sera débarrassé, la pollution va perdurer. Imaginez, on est en saison des pluies, donc ça crée des coulées de la décharge qui vont ensuite se déverser dans le lagon et qui se jettent directement dans l'océan.
À ce point, appelé Collégono, le lagon entre littéralement dans l'océan. Et vous voyez tous ces tentacules de déchets textiles. On peut voir, hein, il y en a partout sur la plage. Ce sont les déchets de la fast fashion. Voilà ce que nous donnent les Européens. C'est ce qui atterrit chez nous. Moi, j'appelle ça du colonialisme de déchets. Parce qu'on sait tous que ces biens ne sont pas bons, mais vous les jetez chez nous.
8 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Accra, poubelle de la fast fashion mondiale. C'est un reportage de Mehdi Medeb. Réécoutez bien sûr en intégralité en podcast sur RFI.fr. C'est du colonialisme, du déchet venu de l'Europe. Valérie Fayard, vous qui, avec Emmaüs, travaillez avec d'autres pays. Votre regard, votre avis sur ce mot-là, cette expression-là qui est forte?
Ah ben, je partage le constat, c'est absolument épouvantable et c'est un sujet fondamental sur lequel il faut se battre. Alors il y a plusieurs explications, pistes et mesures. C'est un, premièrement, l'exportation de déchets est interdite, donc il faut que les contrôles à l'export partant des pays du Nord et à l'import dans les pays du Sud soient renforcés. Parce que c'est interdit d'exporter des déchets. Donc déjà, ça ne devrait pas exister. Bon, et cette réglementation, elle n'est absolument pas mise en œuvre. Ensuite de ça, on en revient à la responsabilité des metteurs sur le marché. C'est-à-dire que les metteurs sur le marché dans les pays du Nord, ils doivent être responsables de la fin de vie du produit jusqu'au bout, et y compris dans les pays d'exportation. Donc là, l'éco-organisme qui est en charge du textile vient de lancer une étude justement sur la traçabilité pour savoir exactement où vont tous les flux derrière. Bon, et on espère que ça débouchera sur quelque chose. Mais il faut qu'il y ait une responsabilité, y compris financière et d'organisation, des metteurs sur le marché dans les pays du Nord sur ces produits-là. Dans la loi sur la fast fashion, on a réussi à faire passer un truc, j'espère que ça sera maintenu, qui dit qu'une partie des fonds qui vont être collectés par les pénalités sur la fast fashion permettra de financer des filières de réutilisation dans les pays d'exportation. Donc, régulation par la puissance publique, diminution de la fast fashion et des productions et des quantités, responsabilité financière des metteurs sur le marché, contrôle à l'export et à l'import. Voilà, c'est un peu les pistes pour réguler ça. C'est un scandale absolu quand on a vu le reportage et les images. Mais ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Ça ne peut pas continuer comme ça.
La fripe est politique. Emmanuel Durand, qui a une responsabilité Nord-Sud.
Oui, merci d'avoir passé cet extrait de ce grand reportage. C'est vrai que ça rejoint la question de l'ambivalence en fait de ce qui vient d'Europe, de comment c'est perçu sur place. Et on voit en fait qu'il y a des voix, des discours qui se soulèvent en fait en Afrique, au Liban et en Tunisie aussi, dans plein de pays qu'on appelle le Sud. On pourrait parler des Suds parce qu'on est sur une diversité de pays, mais en tout cas, je crois que c'est très important d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, de regarder les paysages aussi, de montagnes, de fripes ou de déchets de la fast fashion qui inondent en fait tous ces territoires-là, et de les regarder et de les écouter un peu comme avec un effet miroir en fait, qui vient nous interroger sur nos pratiques de surconsommation, nos pratiques de don, qui parfois relève plutôt du débarras que du don réel, et puis encore une fois de la surproduction. Mais je pense que vraiment écouter, regarder, aller voir ce qui se joue dans ces pays, c'est très important. Enfin, ils ont beaucoup à nous apprendre, en fait, de nos manières de faire.
Et on a beaucoup à apprendre aussi à vous lire. Ça s'appelle L'Enfer. Tiens, lapsus, l'envers des fripes chez Premier Parallèle. Merci beaucoup, Emmanuel Durand, anthropologue. Et merci beaucoup à vous, Valérie Fayard, directrice générale déléguée d'Emmaüs. Les derniers petits mots, on rappelle juste aux gens qu'il ne faut pas oublier de donner, mais on donne de bonne qualité. Hein, on a bien compris, hein. Du
tout
côté d'Emmaüs.
Et on donne aux acteurs solidaires.
Et on donne aux acteurs solidaires, on l'a bien compris aussi. Merci à toutes les deux.
Merci
pour vos éclairages.
Merci pour votre accueil.
Merci.
Allez, on se quitte avec London Afrobeat Collective et Topessa Nsego Namotema. Je l'ai presque bien dit sur RFI.
Tous à causer là, à l'avenir. Tous à causer là, un changement. Tous à causer là, ma cambo est changée. Tous à causer la ville et l'eau. Tous est l'indépendance. Tous est la paix, la gloire. Tous est la justice et y'a les lots. Tous est l'indépendance. Tous est la paix, la gloire. Tous est la justice et y'a les lots. Tropez le sengo. Et sengo. Et sengo. N'amontez-moi. Tropez le sengo.
De voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure sur RFI à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Comment s'adapter aux prochaines pénuries d'eau? Quelles sont les alternatives pour changer nos consommations, nos productions agricoles? Comment économiser l'or bleu et surtout la partager équitablement entre Nord et Sud? C'est un petit peu la suite de cette émission. On en parle dès demain. Belle journée à vous à l'écoute de RFI.